Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Grand Bien vous fasse. Ce matin, émission spéciale Interclasse, l'occasion de se demander comment lutter contre les théories du complot à l'école, au collège et au lycée. Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, il n'a jamais été aussi facile de diffuser des thèses conspirationnistes. Nous vivons une époque saturée d'images, de données numériques, d'informations où s'entremêlent le vrai et le faux, le réel et la fiction, et les élèves sont de plus en plus contaminés par ces faits alternatifs, ces théories complotistes parfois prisées au plus haut niveau. Comment conduire collégiens et lycéens à porter un réel regard critique sur les thèses conspirationnistes? Comment déconstruire ces théories sans tomber dans la morale ou la condescendance? Est-il encore possible de leur opposer des arguments factuels et rationnels? Est-il trop tard? Et puis pourquoi ces théories du complot séduisent-elles autant certains jeunes? Que vous soyez parents, profs ou élèves, comment faites-vous pour lutter contre ces théories? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000, par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez « Il était une fois dans le web » de notre Scheherazade de la vie numérique, Julia Foyce.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
Eh, c'est chaud, t'as vu l'article là sur les attentats?
Lequel?
Celui qui explique que c'est un complot des services secrets qui ont organisé les attentats à Paris.
C'est quoi cet article? C'est un truc sérieux?
Ouais, c'était sur Wikicomplot.
Ah ok, c'est pas des recherches sérieuses, les articles que tu trouves sur Wikicomplot ou les sites conspirationnistes. Il faut toujours vérifier les sources. Leur objectif, c'est de nous faire croire que les explications qu'on nous donne ne sont pas les bonnes. Qu'il y a en sous-main des puissances secrètes qui sont à l'œuvre et qui doivent rester cachées.
Ah ouais, donc toi tu crois qu'on a marché sur la Lune? Tu trouves pas ça chelou qu'en 1969 on fasse des duplex en direct de la Lune et qu'en 2015 on foire nos duplex en direct de Roubaix?
Dès lors que tu n'as pas de preuves concrètes, tu te dois de garder une réserve. Et sur Internet c'est bien, mais c'est le meilleur moyen de trouver des milliards de sites qui te racontent des trucs qu'ils peuvent même pas vérifier eux-mêmes. Garder un esprit critique sur ce que tu peux voir ou lire sur Internet, t'as capté? Bon, je dois y aller mon pote.
Tu reviens quand?
Bon, vers 6h, 6h66. Allez, je te laisse. Adieu.
Un sketch de l'humoriste Kevin Razi dans un clip du service d'information du gouvernement en 2016. Bonjour François Darrocha.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes prof d'histoire géo au lycée Jean Moulin de Roubaix. Et votre classe de seconde fait partie du dispositif Interclasse. Bonjour Christophe Bourseiller.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, journaliste, historien, enseignant à Sciences Po Lille et vous avez publié C'est un complot aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Thomas Huchon.
Bonjour.
Journaliste au site Spicy. Vous avez réalisé un faux documentaire qui met en scène une fausse théorie du complot. On y reviendra tout à l'heure. Vous trouviez assez pourri cet extrait de,
non,
du sketch de Kevin Pourri.
C'est un très bon sketch, mais je crois que et le gouvernement a raison de s'emparer de cette problématique et d'essayer de faire quelque chose.
Qu'est-ce qui va pas dans ce sketch?
Ce qui va pas, c'est ce qui s'est passé quelques semaines après avoir enregistré ce sketch. C'est-à-dire que Kevin Razi s'est rendu à un dîner du Cercle des Volontaires, qui est probablement l'une des plus grosses congrégation de conspirationnistes en France, dans lesquelles il s'est fait remettre une kippa de l'honneur par des révisionnistes et des négationnistes. Donc ça pose quand même un vrai problème.
Bonjour Asma et Azania, bienvenue sur France Inter.
Bonjour.
Vous êtes élève au collège Pierre de Jeter à Saint-Denis. C'est quoi pour vous une théorie du complot? Est-ce que vous savez ce que c'est?
Une théorie du complot, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on entend aux médias, qui vont nous faire croire que tout ce qu'on entend c'est faux. Et ça a souvent un rapport avec la politique où on remet en cause la place de quelqu'un. De quelqu'un haut placé, par exemple.
Christophe Bourseiller, ça vous convient, cette définition?
Oui, parce que ça veut dire une chose, c'est que les élèves, ou les jeunes qui vont s'intéresser aux théories du complot, pour eux, de leur part à eux, qui sont exposés à ces théories, ça part d'un bon sentiment. C'est-à-dire qu'ils se disent, finalement, l'actualité, on peut la critiquer. Après tout ce qu'on écoute à la radio n'est peut-être pas vrai, et c'est vrai que tout n'est pas toujours vrai. Donc c'est bien d'aller vers un regard critique sur l'actualité, de ne pas gober tout ce qu'on reçoit à France Inter comme si c'était du miel, mais s'interroger, discuter. À partir de là, le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus gober ce que vont raconter des faiseurs de bobards, qui sont ceux qui vont justement mettre en place ces faits alternatifs, ces théories alternatives qui, elles, sont dangereuses.
Alors François Darrocha, on s'est rencontré à Roubaix, au lycée Jean Moulin, où vous exercez, avec Emmanuel Davier et Patricia Martin ici présente. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Qui anime le 7-9 le week-end. Alors ce qui nous a vraiment frappé, sans porter de jugement de valeur, ce sont les théories du complot qui séduisent la grande majorité de vos élèves. C'était assez étonnant.
Pourquoi
cette prégnance? Non, je ne sais pas. Patricia Martin.
Bah oui, pour vous, c'est votre vie quotidienne, mais je dois dire que moi, je suis tombée de ma chaise la première fois que je suis venue chez vous. Oui, c'est ça, c'est tout à coup, bah, le 11 septembre, c'est la CIA, c'est le Parti pour la Terre n'est pas ronde, elle est plate. Enfin, on se dit, mais attendez, je rêve, c'est pas un sketch, c'est pas. Non, c'est, je les ai en face de moi, là, ils sont en train de me parler et c'est ce qu'ils disent.
Ah oui, c'est notre quotidien généralisé. Voilà, ils remettent en cause, comme le dit Christophe Bourseiller, finalement, c'est une forme d'esprit critique, peut-être poussé à l'extrême, certainement un effet secondaire, un effet pervers de cet aspect critique, mais oui.
Est-ce qu'au quotidien, vos cours d'histoire sont constamment évalués à l'aune de ces théories du complot?
Non, pas constamment. Ce sont uniquement ce qu'on appelait les questions sensibles qui sont remises en cause. Les génocides, et en particulier le génocide des Juifs d'Europe, le terrorisme, les actes de terrorisme, mais jusqu'alors, il me semble pas qu'on ait remis en cause, que mes élèves aient remis en cause tout le travail qu'on peut faire sur l'identification des corps des soldats de la Première Guerre mondiale.
Bonjour Thomas Chauvineau.
Bonjour Ali.
Vous vous êtes rendu au lycée Jean Moulin de Roubaix. Vous avez pu constater cette contamination complotiste?
Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est assez surprenant, comme le dit Patricia, quand on est confronté aux élèves. Parce que moi, quand je les ai rencontrés, en plus, on était sans le professeur. Donc finalement, ils parlaient assez librement, sans pudeur de gazelle, pour reprendre une expression.
Est-ce qu'ils parlaient tous ensemble? Parce ils ont cette proportion absolument phénoménale.
Ils parlaient tous ensemble et ils m'ont évidemment parlé de la théorie du complot. C'est un mélange chez eux de vrai, de faux, de désinformation et d'information. Bref, un magma assez bizarre. Ouais.
Azania, Asma, est-ce que dans vos cours d'histoire ou dans d'autres cours, est-ce que les théories du complot surgissent? Est-ce que vous interrogez parfois vos profs à l'aune de ces théories? Est-ce que ça intervient dans vos cours?
Non.
Azania? Non. C'est pas très présent?
Non, c'est pas présent.
Bon, vous êtes en troisième, c'est ça?
Oui.
Bon. Christophe Bourseiller, des complots, il y en a toujours eu dans l'histoire.
Bah oui, c'est ça,
mais qu'est-ce qui
sûr,
différencie une théorie du complot d'un complot? Ah bah, qui a vraiment existé.
D'abord, l'histoire, elle est truffée de complots. Il y a toujours eu des complots. Quand Ravaillac tue Henri IV, c'est un complot. Enfin, on pourrait citer plein de complots qui ont véritablement eu lieu. Alors, les théories du complot, c'est autre chose. Les théories du complot, c'est en fait une amplification des rumeurs. Il y a toujours eu des rumeurs qui couraient sur les gens. Il paraît que c'est vrai. Il paraît que machin fait ci, fait ça. Il se drogue, etc. Il y a toujours eu ces rumeurs. Une théorie du complot, c'est une amplification, comme une rumeur qui devient un système de pensée. Donc, à partir de là, on va dire, par exemple, la Révolution française, c'est un coup d'État organisé par les francs-maçons, les juifs, les protestants, les illuminati, pour faire advenir le règne de Satan. Donc c'est un complot. Donc voilà, on va mettre en place comme ça une espèce de théorie, disons, expliquant tout par, au fond, la présence de forces occultes. C'est très rassurant pour ceux qui disent ça, parce que plus rien n'arrive jamais au hasard. C'est-à-dire que tout arrive toujours de façon calculée. Alors évidemment, ce qui est très dangereux, parce que ça donne l'impression d'être vrai, on se dit, mais finalement, c'est une autre vision des choses. Pourquoi pas? Après tout, c'est peut-être juste. Sauf que très souvent, on nous entraîne dans des eaux très inquiétantes, parce qu'en fait, il y a l'idée quand même d'instiller un venin, lorsque on met en place les théories du complot.
Et Azania, est-ce qu'en dehors des cours, les théories du complot sont très présentes? Est-ce que vous en discutez entre vous, entre potes, en dehors des cours? Est-ce que ça revient régulièrement dans vos conversations?
Franchement, non, parce que j'ai quand même l'impression que... avec ceux avec qui je parle, franchement, les théories du complot, on y croit pas, en fait. On préfère croire vraiment ce qu'on entend aux médias, à la télé, à la radio, même si on n'est pas censé tout croire ce qu'on entend. Mais je pense que c'est plus sûr d'écouter... ça plutôt que des théories.
Tu es bien sage, Azania. Thomas Huchon, vous vous rendez très régulièrement dans les établissements scolaires pour déconstruire les théories du complot auprès des jeunes.
Bah, effectivement, avec Spicy, on a...
Notre site.
Oui, on a monté un documentaire qui fait à la fois un espèce d'ascenseur émotionnel, qui est à la fois un faux film qui raconte que la CIA a inventé le sida pour s'attaquer aux Cubains, que tout ça est la raison du blocus, et que la fin du blocus que nous connaissons en 2015 est en fait uniquement justifiée parce que les Cubains ont découvert le vaccin et que nous et nos multinationales de la santé veulent récupérer ce vaccin. Ça dure 7 minutes 30, on l'avait diffusé sur Internet en 2015 lors d'une infiltration dans la complosphère pour essayer de comprendre à la fois comment ça fonctionnait et essayer d'avertir le public sur le fait que sur Internet aussi on pouvait leur mentir. Moi, c'est finalement l'une des choses qui me semble le plus surprenante au contact de tous ces jeunes qu'on a rencontrés dans 53 classes, dans 25 établissements scolaires différents en 2016. Donc c'est pas interclasse, mais c'est spicy class, si vous voulez. Ce qui me surprend, c'est qu'il y a une espèce de... Il y a une vraie volonté de poser des questions. Et cette volonté, elle est légitime. Le problème, c'est que sur Internet, Le problème, c'est pas la question, c'est qui donne la réponse. Mais c'est qui donne la réponse. Ce n'est pas uniquement la qualité de la réponse, c'est qui la donne. Et on est face aujourd'hui à un univers du digital dans lequel tout un tas de désinformateurs professionnels qui gagnent très bien leur vie ou qui en ont fait un instrument politique ont conquis la place depuis 15 ans. Ils ont gagné la bataille des algorithmes. Et donc, quand vous allez demander, par exemple, à Google les mots « pas d'avion », eh ben, il vous dit immédiatement dans les tours, le 11 septembre, dans le Pentagone. Si vous lui dites pas de juifs, il vous dit immédiatement le 11 septembre, immédiatement il vous dit à Charlie Hebdo, il vous dit, il vous ramène toujours à ces théories du complot, parce qu'en fait, quelque part, ce sont des croyants, on l'a dit tout à l'heure, les croyants sont beaucoup plus motivés à faire valoir leurs croyances, et donc ils sont beaucoup plus motivés à écrire tout ça sur Internet. Donc je crois que l'un des dispositifs qu'il faut mettre en place pour lutter contre les théories du complot, c'est bien entendu l'éducation, mais c'est aussi la société. Il faut que les rationalistes reprennent le pas sur les complotistes.
François Darrocha.
Oui, ben, la société n'est qu'un réceptacle de notre éducation. C'est sûr que nous, on a une temporalité qui est différente peut-être du temps médiatique. On va devoir réagir dans l'urgence, mais il y a le long terme, et le professeur est avant tout le professeur sur une année, voire sur plusieurs années. Donc on a cette chance-là. On ne va pas se limiter à 7 minutes, mais ces 7 minutes sont fondamentales, sont importantes. On doit jouer sur ces temporalités. Et par ailleurs, les élèves, en se laissant aller dans les théories du complot, en se laissant séduire, cherchent finalement à donner du sens à un monde qui est très compliqué. Or, il y a des disciplines qui servent à donner du sens, à donner de la cohérence. Ce sont les humanités, c'est parfois la littérature également, mais l'histoire-géographie en tête.
Allez, que vous soyez parent, prof ou élève, comment faites-vous pour lutter contre les théories du complot? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000, par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess, avec l'aide de Clara Marlio, et c'est réalisé par Claire Destacan.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebéi.
Paradis interprété recto verso.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse.
Vive Interclasse!
Sur France Inter.
10h22, opération spéciale Interclasse ce matin sur France Inter. Comment lutter contre les théories du complot à l'école, au collège, au lycée? C'est notre thème du jour avec François Darrocha, prof d'histoire au lycée Jean Moulin de Roubaix, le journaliste Thomas Huchon, l'écrivain Christophe Bourseiller, et puis avec nous également Patricia Martin, qui nous rend visite dans le studio, et puis Azania et Asma, élèves au collège Pierre de Jeter à Saint-Denis. Thomas Chauvineau, vous vous êtes rendu au lycée Jean Moulin de Roubaix, où les élèves de seconde que vous avez rencontrés sont plutôt séduits par les thèses complotistes.
C'est un euphémisme. Les secondes deux, donc, de monsieur Darrocha qui est là parmi nous. Alors, on n'a pas le temps de tous les citer, mais il y a Massim, Souleymane, Tariq, Bilal. Je ne vais pas tous les citer. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. D'abord, que le lycée Jean Moulin vient de publier aujourd'hui le classement des lycées. On peut le dire, fait pas partie des lycées qui soient en tête de ce fameux classement. Hein, et donc
en termes de plus-value, on est très bien classé encore et on va avoir droit à un article du Monde parmi les meilleurs lycées de France si on se fonde sur la plus-value.
Oui. C'était important d'apporter la précision. Et que moi j'ai rencontré vos élèves, donc monsieur Darrocha de seconde 2, dans un petit endroit à côté de la classe, c'est-à-dire sans le professeur où la parole s'est largement libérée.
Là, il y a une équipe de fous.
Vous êtes une équipe de fous.
Oui.
Donc, on parle de la théorie du complot. Qu'est-ce que c'est pour vous, la théorie du complot?
C'est une manigance en dehors des médias, des... quand personne ne le sait, en fait. Soum.
Moi, je dis que c'est les stars. Tellement ils ont de l'argent, ben, ils peuvent faire des complots. Et c'est pour ça. C'est ça, les Illuminati.
Ils veulent cacher une vérité.
Mais qui, ils?
Bah, les gens, je sais pas, moi.
L'État. Ils manigancent beaucoup de choses.
Et ils cachent une vérité.
Ouais, les hommes politiques aussi.
Alors donne-moi un exemple.
Bah par exemple, Fillon, avec les emplois fictifs et tout.
Bah ça c'est pas un complot.
C'est quand même quelque chose qu'ils ont fait dans le dos de l'État.
C'est quand François Hollande cherche des prétextes pour bombarder la Syrie. Il attend les prétextes des attentats pour bombarder leur pays. Pour moi les attentats c'est fait exprès. C'est...
Ouais, toi tu crois que les attentats qu'il y a eu en France, c'est un complot?
C'est un complot, ouais. Enfin, il y a trop du cul pour laisser des passeports ou je sais pas quoi, des cartes d'identité.
Il faut changer de disque.
C'est-à-dire ?
Toujours, ils trouvent quelque chose qui appartenait au...
Au
terroriste.
C'est comme le 11 novembre.
Genre, pour les deux tours jumelles, mais avec les deux tours qui sont tombées, ils ont retrouvé un passeport.
Ça, t'es sûr qu'on a retrouvé un passeport dans les
non,
tours ?
Non, c'est ce qu'ils ont dit.
Alors, qui c'est ils ?
Les médias.
Et vous y croyez vraiment, à ce que vous êtes en train de dire là?
Oui. Bah ouais.
Dans ce cas-là, pourquoi on ferait des complots? Qui serait derrière? À quoi ça servirait?
Pour faire peur aux gens.
Pour nourrir l'islamophobie. Nourrir, pas mourir.
Et pourquoi nourrir l'islamophobie?
Bah, comme ça... je sais pas, comme ça l'islam c'est mal vu, les arabes et tout. Et la plupart des arabes c'est des musulmans, du coup ils sont en train de les salir un peu pour les bouger.
Justement, pour faire monter Marine Le Pen au pouvoir. Et ça marche.
Après, il y a d'autres complots aussi. Par exemple, Askip Hitler est pas mort.
Voilà,
Askip est pas mort. Parce que...
Attends, c'est quoi?
Il est pas mort.
Il est mort ou il est pas mort?
Il est pas mort dans son bunker, c'est pas pareil.
Ouais, Kadhafi, on a vu les images et tout qui était mort, mais pas Ben Laden.
Par exemple, au cas les États-Unis sont intervenus en Irak en 2003. Ils avaient dit qu'il y avait des bombes chimiques. Quand ils sont arrivés là-bas, il n'y avait pas de bombes chimiques. C'était pas vrai, c'était juste pour prendre leur pétrole.
Internet, ça m'a beaucoup influencé. Parce que moi, maintenant, je crois que les stars, ils ont donné leur âme au diable. Je vous jure, c'est vrai.
C'est les Illuminati.
Les francs-maçons.
Tu veux dire que pour devenir une star, ils ont vendu leur âme au diable?
Ouais.
Et tu fais comment pour vendre ton âme au diable?
Je sais pas, moi...
C'est
moi,
une cérémonie. Ouais, rituel.
Est-ce qu'il paraît Daesh? Daesh, c'est un truc créé par la CIA, enfin je sais pas par qui, et ils font exprès de faire des attentats un peu partout, et c'est tout.
Et alors, dans ce cas-là, comment, puisque les complots, il faut les déjouer alors, s'il y en a, comment déjouer les complots?
Faut chercher, faut avoir des preuves, faut rechercher pour...
Même si t'en as...
Même les complots. Faut chercher la vérité. Les journalistes, on est sûr de rien, de ce qu'ils nous donnent. Ils peuvent nous dire des choses fausses comme ils peuvent nous dire des choses vraies. Il faut que c'est ceux qui lisent qui cherchent les preuves et tout. Alors,
à toi de te faire ta propre opinion, quoi.
Ouais.
Vive le Barça !
Allez le LOSC !
Voilà, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... par exemple le LOSC, le Barça et toute cette histoire-là, ça fait aussi partie d'un complot. Si le PSG a perdu 6-1, c'est parce qu'il y a eu un complot. Donc tout vient se mélanger à partir du moment où il y a eu un mensonge premier, la destruction massive, les armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées en Irak. Ça suffit pour légitimer dans leur esprit l'ensemble
des autres
complots.
C'est vrai qu'il y a des matchs truqués, c'est vrai, ça
mais
existe.
Thomas Chauvineau, certains auditeurs pourraient se dire « ce montage, il est caricatural ».
Non, vraiment un résumé de la conversation que j'ai pu avoir.
François Darrocha, vous êtes le prof d'histoire de cette classe.
Non seulement il n'est pas caricatural, mais je suis ravi de les entendre. Ça fait deux jours que je ne les ai pas entendus, donc ça commence à me manquer. ce que peuvent dire Reda, Malik, Tariq, c'est ce qu'on entend tous les jours. Enfin, au moins dans cette classe. Maintenant, c'est une classe de seconde. Bah, on a un peu plus de deux ans pour calmer un petit peu la chose grâce à l'éducation, grâce au suivi.
Azania, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre là ? Quand par exemple un élève dit que les attentats c'est fait exprès, qu'est-ce que...
Je trouve que c'est bête de penser ça, que... Enfin, trouver qu'un attentat c'est un complot, je sais pas quoi dire, franchement je...
T'avais l'air consterné pendant la diffusion
oui,
du reportage.
Très.
Thomas Huchon.
Mais je crois qu'il faut rappeler quelque chose, Christophe l'a dit tout à l'heure, les vrais complots, ça existe. Et en l'occurrence, le 11 septembre 2001, c'est un complot. C'est un complot ourdi par Al-Qaïda pour s'attaquer à l'Amérique. Et donc, il faut quand même le dire. Donc, il y a aussi toute cette dynamique-là. Et les attentats de janvier en France, c'est un complot de Daesh.
Christophe Bourseiller, que diriez-vous à des élèves qui pensent, comme ceux de la seconde du lycée de Jean Moulin de Roubaix, que le 11 septembre est l'œuvre de la CIA, des services secrets israéliens?
Quels sont
les arguments à opposer?
Je pense que c'est important, c'est même fondamental. Alors c'est difficile et délicat, mais je crois qu'il faut répondre sur le fond. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de stigmatiser la source en disant « oui, le type qui dit ça, je le connais, c'est un négationniste, un fasciste, etc. » C'est souvent le cas, mais ça ne change rien parce que les complotistes disent « écoutez, vous ne répondez pas sur le fond. Je vous ai dit que l'acier fond à tel degré et qu'un avion qui percute une tour produit une chaleur qui est un petit peu plus faible que le point de fusion de l'acier. Que répondez-vous ?» Eh bien, il faut répondre. On ne demande pas à l'acier d'entrer en fusion pour qu'une tour s'éclate. On lui demande de se ramollir. Et l'acier se ramollit à une température bien plus faible que le point de fusion de l'acier. Donc, vous pouvez répondre techniquement aux arguments des complotistes. C'est difficile, c'est délicat, mais c'est le seul moyen.
Qu'est-ce que vous répondriez à un élève qui nous dit que le policier Ahmed Merabet, pendant les attentats de Charlie Hebdo, il n'est pas vraiment mort
Je lui demande d'abord, c'est une thèse, je dirais... J'écoute ce que vous dites, parce qu'au fond, exprimez-vous. Il ne faut surtout pas sous-estimer, mépriser ces théories. Il faut dire qu'est-ce que vous avez à dire. Alors, d'accord, vous me dites ça. Vous vous basez sur quoi? Vous vous basez sur une vidéo lointaine, des clichés. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne voit pas de sang. Alors, vous savez, parfois, quand on tue quelqu'un, le sang ne gicle pas, comme dans les films de zombies, comme dans The Walking Dead. Alors, voilà, parfois, ça se passe différemment, mais on meurt quand même. Donc, voilà ce qu'il faut expliquer, tout comme l'histoire des rétroviseurs de la voiture. Alors, en fait, suivant, vous savez, on a dit que c'était des voitures différentes parce qu'il y avait une brigade des services secrets qui était entrée en ligne de compte. Pas du tout. Simplement, quand on prend en photo un rétroviseur, eh bien, parfois il reflète quelque chose. Parfois, si on change d'angle, ça ne reflète plus rien et ça ne veut rien dire.
Thomas Huchon, les leçons de morale descendantes, ça ne marche pas beaucoup avec les élèves. Il faut partir de leur pratique, de leur croyance.
Déjà, il faut partir de leur pratique. Il ne faut surtout pas stigmatiser qui que ce soit. Moi, je crois que les gens ont bien entendu, comme le dit Christophe, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de se poser toutes ces questions. Encore une fois, le problème sur Internet, c'est pas la question, c'est qui donne la réponse. Et donc, quand vous allez poser toutes ces questions-là, quand vous allez demander, par exemple, est-ce qu'Ahmed Merabet est vraiment mort ce jour-là ? Bien entendu, vous allez tomber sur une vidéo de 12 secondes sur Internet qui est montrée au ralenti, qui est très pixelisée, et sur laquelle on voit pas de sang jaillir. Nous, c'est une des choses qu'on a essayé de faire sur Spicy, c'est de répondre précisément à ces théories du complot en allant les chercher sur le fond. On a fait une petite vidéo, notamment sur l'histoire des rétroviseurs. Vous savez ce qu'on a fait ? On a fait un truc débile. On a été filmé des voitures qui rentrent et qui sortent d'un parking. Mais voilà. Les rétroviseurs sont chromés, la lumière change, la couleur des rétroviseurs change. C'est le même véhicule. Pour Ahmed Merabet, on a été interrogé un spécialiste des blessures par balles, quelqu'un qui s'est occupé de soigner les survivants du Bataclan. Et lui, il nous l'explique. Il a travaillé pendant 15 ans à Gaza. Et ça embête un peu les complotistes, les gens qui ont travaillé à Gaza. Il y a aussi toute une logique politique derrière tout ça. Et donc, ce médecin nous expliquait qu'il n'y a absolument aucune obligation pour que quand on prend une balle de Kalachnikov à bout portant, il y ait du sang qui gicle immédiatement. Ça, c'est les films de Tarantino. Après, on peut essayer de poser notre vision du monde sur la réalité. Mais il y a un moment, il faut quand même regarder la réalité.
Bonjour Samuel, vous appelez de Normandie, bienvenue dans Grand Bien vous fasse.
Bonjour.
Vous appelez d'où en Normandie?
De Caen.
Alors, vous intervenez auprès de jeunes, c'est ça? Soumis à ces théories du complot?
Exactement, on travaille dans la prévention de la délinquance et on accompagne les jeunes en décrochage scolaire, en souffrance familiale ou autre. Et donc ces jeunes-là sont peut-être plus particulièrement soumis à ces croyances. Et on essaye de mettre en place une posture professionnelle pour s'opposer à ça.
Et quels sont vos outils concrets, justement, pour contrer ces théories du complot?
Je voulais juste nuancer, c'est que je pense que d'une part, l'âge de l'adolescence fait qu'on est en opposition avec la parole de l'adulte, avec la parole du JT de 20h, avec la parole du prof, et donc on va chercher les jeunes, naturellement, vont essayer de chercher leur interprétation, leur croyance. En plus, on sort d'une époque de l'enfance où il y a plein de croyances, donc c'est ça. C'est aussi assez logique. Après, les enfants qui restent et qui deviennent adultes et qui restent dans ces croyances, nous, on observe que c'est aussi des personnes qui ont été... parce qu'ils ont une trajectoire de vie, ils n'ont plus confiance en la parole de l'adulte et ils vont croire en quelque chose d'autre. Et donc, notre travail... Il n'est pas forcément d'expliquer avec du sens et de démontrer que l'enfant a tort, mais plutôt à lui reconnecter avec l'amour et la croyance de la parole de l'adulte.
Thomas Huchon.
Oui, ben, je pense qu'on est... On est dans une situation, si vous voulez, dans laquelle on parle beaucoup des jeunes, mais finalement
la
société est comme ça. Nous, on a fait un sondage à propos du 11 septembre pour les 15 ans des attentats. On a découvert que 31% des Français considéraient que le gouvernement était impliqué dans ces attentats. Ce chiffre monte à 37% quand on prend les moins de 24 ans. Donc effectivement, il y a une prégnance. Cette prégnance, on l'a dit, elle est liée à l'époque, à l'adolescence, au rejet d'une forme d'autorité et tout. Mais c'est quand même assez inquiétant. Moi, quand j'avais 15 ans et que je rejetais l'autorité, on appelait le Che Guevara. On n'allait pas voir Dieudonné à Alain Soral.
François Darrocha, ces théories du complot, ça permet de transgresser. C'est une manière de contester, évidemment, la parole des adultes et des profs, en l'occurrence.
Oui, sans doute que l'adolescence est à prendre en compte. Maintenant, je suis pas sûr que certains hommes politiques qui jouent avec les théories du complot soient en pleine crise d'adolescence non plus. Hein. Bon, évidemment, il y a la parole de l'adulte, il y a la parole de l'autorité qui n'est pas seulement générationnelle, mais aussi celle du fonctionnaire qui représente l'État. Donc on apporte une vérité, soi-disant. Maintenant, on est avant tout là pour les aider à construire leur vérité.
Azania, sur ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que ça t'inspire?
Je sais pas.
Asma?
Moi, je pense plutôt que les enfants d'aujourd'hui, les adolescents, ils se posent tellement de questions que les premières personnes qui leur répondent, ils les croient directement. Et vu que l'État et les médias, ils ne donnent pas vraiment de preuves, ils ne donnent pas vraiment de photos ou de preuves scientifiques ou n'importe.
Mais les complotistes n'apportent pas de preuves. Les complotistes, ils n'ont que des doutes. Ils n'ont jamais de preuves. Les complotistes, quand ils doutent de la Shoah du 11 septembre, ils doutent. Ils disent oui, c'est quand même louche, c'est quand même bizarre, c'est tout. Mais c'est tout ce qu'ils disent. Ils n'ont aucune véritable preuve, alors que dans tous ces cas, la Shoah, le 11 septembre et beaucoup d'autres, les autres ont apporté des preuves, des éléments de preuves, des réponses, des témoignages qui manquent aux complotistes.
Asma.
Mais justement, ils se posent tellement de questions que les premières personnes qu'ils prennent, c'est dans les réseaux sociaux, en fait. Les gens, ils font des montages, des vidéos, des n'importe quoi, et les gens, ils croient, ils gobent, qu'est-ce qu'ils voient,
en fait.
Mais en fait, je crois qu'il y a aussi la manière dont on accède à l'information. Les réseaux sociaux ont modifié le lien de confiance entre l'émetteur et le récepteur du message. Si vous, Ali Rebelli, vous expliquez quelque chose dans votre émission, je le reçois par le poste de radio, ou par mes écouteurs, voilà. Si jamais vous postez un message sur votre mur Facebook et que nous sommes en contact sur Facebook, nous avons donc finalement une espèce de relation humaine fictive, digitale. Mais en tout cas, on est en relation. Et donc, ce que vous dites, ça a beaucoup plus d'impact si vous me le dites sur Facebook que dans le micro de la radio. C'est d'ailleurs terrible, quelque part. Mais ce phénomène-là, comme tu l'expliques très bien, eh bien, il amène finalement, après les attentats, à des phénomènes de crédulité dingue sur... parce qu'il y a en même temps une forme de révisionnisme en temps réel qui est là produit par des gens qui veulent le faire. Il ne faut pas l'oublier.
Asma.
Mais en fait, c'est toujours la même chose, quoi. Il y a tellement de questions. En fait, on donne tellement pas d'informations que les gens ils commencent à croire des choses, à se faire des visions dans leur tête, à inventer n'importe quoi, quoi.
Thomas Chauvineau.
Qu'est-ce qui fait, alors, dans ce cas, que toi, Asma, tu n'y crois pas et que d'autres y croient?
Parce que, entre croire plein de journalistes qui vont faire des recherches... chercher la vérité et y croire des quelques adolescents qui vont jeter des informations sur les réseaux sociaux, on sait directement qui croire.
D'où l'importance d'expliquer, c'est ce qu'on essaye de faire quand on va à Roubaix, d'expliquer la façon dont on travaille. Et là, effectivement, ils posent plein de questions. Savoir que les infos, elles tombent pas du ciel, qu'on les recoupe, que c'est vérifié, etc. Pour leur dire, voilà, multipliez les sources d'informations, et là, vous ne serez pas une victime prise dans une nasse, mais vous pourrez vous faire vous-même votre propre opinion.
Après, c'est délicat, je voulais quand même rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que, en fait, vous voyez, quand, par exemple, dans le reportage, on entend un élève qui dit « les stars ont vendu leur âme au diable », il y a un substrat religieux derrière, il y a quand même une parole à la maison qui est contradictoire par rapport à la parole qu'on entend en classe, quoi. Donc là, c'est quand même aussi compliqué. Est-ce que vraiment il y a des parents qui vont expliquer à leurs enfants, vous savez, les stars, Madonna a vendu son âme au diable et c'était une Illuminati?
Thomas Huchon.
Mais moi, en fait, j'ai envie de leur demander à L2, qui visiblement ne croit pas à la théorie du complot, comment vous faites pour vérifier l'info? Comment est-ce que vous faites pour... Quelles questions vous vous posez? Parce que mon expérience dans les classes, c'est que les jeunes ont bien plus de solutions à ce problème qu'ils ne constituent le problème en lui-même.
Je pense que des fois, y a des questions en fait sans réponse. Par exemple, comprendre pourquoi les terroristes, on trouve leur passeport sur les lieux des attentats.
Mais on sait pourquoi. On sait pourquoi. C'est parce que ce sont des opérations kamikazes et que les terroristes ont pour consigne de laisser leur passeport, puisque de toute façon, ils ne vont pas survivre. Yeah. Donc ils font exprès pour montrer voilà qui je suis, voilà le sens de mon acte. Je m'appelle Kouachi, voilà ce que j'ai voulu faire. C'est exprès.
Alors, pour le coup, je pense que...
C'est dans le monde entier.
C'est un élément, ça. Par exemple, quand on veut perpétrer un attentat terroriste, il est possible qu'en allant sur le chemin, comme tu vas à l'école, tu tombes sur des policiers qui vont faire un contrôle d'identité. Mais si t'as pas tes papiers, qu'est-ce qui se passe? En fait, la vraie raison de la présence de cette pièce d'identité dans le véhicule, c'est ça. Après, tout ça, ça va très vite. Il s'agit quand même de gens, on essaie de poser des raisonnements rationnels sur des gens qui vont aller dans une rédaction pour tuer 12 personnes à la Kalachnikov. Donc il y a quand même un moment, il faut sortir de cette rationalité.
François Darrocha.
Ah oui, c'est assez intéressant quand même de vous entendre poser des questions, et c'est ce qu'il y a finalement peut-être de plus important dans les théories du complot. Elles ne sont que des réponses à des questions que l'on se pose.
Et des mauvaises réponses à des bonnes questions.
Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a cet intérêt, cette recherche, cette volonté d'esprit critique. Maintenant, c'est à nous, sur le long terme et également dans l'urgence, d'y répondre, de chercher des solutions pour y répondre et pour vous aider surtout à y répondre.
Allez, que vous soyez prof, parent ou élève, comment faites-vous pour lutter contre les théories du complot? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and never things are changing for the worse. See, we have to give these visions.
Jamiroquai, Virtual Insanity.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h44, émission spéciale Interclasse, comment lutter contre les théories du complot à l'école avec François Darrocha, prof d'histoire au lycée Jean Moulin de Roubaix, le journaliste Thomas Huchon, Christophe Bourseiller, auteur de cet un complot, avec nous également Azania et Asma, élèves du collège Pierre de Jeter à Saint-Denis, et puis Patricia Martin qui participe à Interclasse. Thomas Huchon, pour lutter contre les théories du complot auprès des élèves, il est essentiel d'expliquer en quoi consiste exactement le travail des journalistes, le croisement des sources, la vérification de l'information.
Mais c'est vrai qu'il y a, à la fois, à mon avis, il y a deux missions à mener en parallèle. Il y a une mission d'éducation aux médias et donc d'apprendre à s'informer. Ben moi, quand les premiers journaux que j'ai lus, c'était le Journal des enfants et c'était très didactique, c'était fait pour ça. C'était fait pour des enfants. Aujourd'hui, quand on a 8, 10, 12, 14 ans et qu'on déboule sur Google et qu'on pose les bonnes questions auxquelles on va trouver de mauvaises réponses, c'est très impressionnant, c'est un impact très fort. Asma le disait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que les premières choses sur lesquelles on va tomber, on va y croire. Ça, c'est une partie des choses. L'autre partie, c'est peut-être de, et je pense qu'il faut, enfin, c'est de considérer que nous, journalistes, avons aussi une part de responsabilité dans le développement de tout ça. Je crois que les dernières statistiques montrent que 22% des Français seulement croient les médias. Ils sont 30% à croire les politiques. Donc ça veut dire qu'on est moins crédible que les hommes politiques qui nous gouvernent, ce qui, moi, me terrifie absolument. Mais ça veut dire qu'on a une part de responsabilité là-dessus. Donc il faut réouvrir les rédactions et montrer comment on travaille.
Asma, est-ce que tu sais, par exemple, comment fonctionne le métier de journaliste, tout simplement? J'imagine qu'avec Interclasse, tu en sais un peu plus, mais est-ce que ça t'a aidé à mieux comprendre notre travail?
On a mieux compris que les journalistes, d'abord, ils vont bien chercher leurs informations, qu'ils vérifient bien que la source est vrai, est sûr plutôt, et qu'après il donne l'information aux gens, qu'il balance pas des informations n'importe comment, quoi.
Azania, est-ce que tu regardes le métier de journaliste autrement depuis que tu participes à Interclasse?
Oui, parce qu'avant je pensais vraiment que c'était je savais qu'ils vérifiaient leurs informations, mais pour moi c'était pas totalement vrai, même si maintenant je sais que aux médias c'est pas... Ça ne va pas être entièrement vrai à 100%, mais je suis déjà plus sûre que c'est... Il y a déjà une autre part de vérité dedans.
Thomas Huchon.
Mais non, mais je trouve ça super, ça me fait beaucoup sourire, et en même temps, je trouve ça très bien ce que vous dites, les filles. Quand tu dis les médias, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est, pour moi, c'est tous ceux qui... la télé ou les journaux qui nous envoient des informations pour qu'on puisse savoir ce qui se passe.
Ouais, mais si nous on dit les élèves, est-ce que les élèves c'est un corps unique qui pense de la même manière et qui existe de la même manière?
Non,
est-ce que t'es pas en désaccord avec ta camarade? Vous êtes deux, tu vois, déjà, vous êtes déjà pas d'accord. Donc est-ce que vous comprenez bien que France Inter, c'est pas Europe 1, que Libération, c'est pas Le Figaro, ouais, que Spicy, c'est pas Vice. Enfin, que quand vous dites les médias, les informations, la télé, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre ces différents médias et à comprendre que ils font tous le même travail, mais ils le font pas forcément de la même manière et avec d'autres lignes éditoriales? Est-ce que vous comprenez ça?
Oui.
Ouais.
Asma?
Oui, après moi je dis que après les adolescents c'est naïf, quoi, en fait. Chacun va dire une information à l'autre, l'autre va le répéter à l'autre et à la fin tout le monde croit la même chose, en fait.
François Darrocha, dans votre classe, quel type d'arguments opposez-vous aux élèves qui défendent des théories du complot, farfelues, ineptes ou dangereuses? Quels sont vos outils?
Alors,
est-ce que l'éducation nationale vous forme à ce type de théorie du complot? Enfin, est-ce que vous avez des outils concrets?
On commence à être formé. Bon, dans l'Académie de Lille, il y a un stage sur les théories du complot, justement, qui commence depuis un ou deux ans à se mettre en place. On a des instances, des organismes intermédiaires, entre autres le CLEMI, qui peut aider et qui est très actif quand on le lui demande. Maintenant, la réponse sera de toute façon sur des temps différents. Il y a la réponse dans l'urgence, une théorie qui nous vient à la face, il faut y répondre immédiatement, et comme disait Christophe tout à l'heure, c'est par des arguments qui permettent de revenir au fond, qui sont rationnels. Et puis il y a le temps de l'éducation, qui est un temps beaucoup plus long, à moyen ou long terme, entre autres en apprenant à lire des sources, à les critiquer. Et je reviens sur ma touquette, c'est l'histoire géographique qui va aider principalement à cela.
Pourquoi les opinions, les croyances conspirationnistes sont-elles si difficiles à réfuter auprès des élèves, Christophe Bourseiller ?
C'est très compliqué parce que, si vous voulez, moi je suis par exemple, j'ai trouvé assez ridicule personnellement que le gouvernement lance une campagne pour décrédibiliser les thèses conspirationnistes parce que ça va dans le sens des complotistes de dire, vous voyez, le gouvernement nous dit ce qu'il faut penser. C'est l'État qui nous dit que c'est 1984, c'est George Orwell. Donc c'est très délicat de faire ça. Je crois qu'il y a tout un travail de réponse point par point, et puis il y a tout un travail, alors là je vous rejoins complètement, de contextualisation. Par exemple, il faut expliquer Daesh. Moi j'ai été très étonné avec Daesh, j'ai trouvé, c'est une critique qu'on peut faire de l'actualité, j'ai trouvé qu'on a attendu très longtemps avant qu'on nous explique ce que pensait Daesh. C'est-à-dire qu'on disait c'est des criminels, ils commettent des crimes, ils font ci, ils font ça. Oui, mais quel est leur courant? Et alors on a découvert bien plus tard, il y a eu des articles qui ont commencé à sortir sur le fait que c'était une branche très minoritaire de l'islam, les takfiristes, un courant qui était même encore dans une surenchère par rapport à Al-Qaïda et au salafisme. Enfin, on a découvert ça, mais finalement trop tard, parce que je pense qu'en sachant d'où parlait Daesh, on avait une information, ça permettait de contextualiser et d'expliquer pourquoi ils oubliaient leur carte d'identité. Ils l'oubliaient pas, ils la mettaient en avant parce que c'était des martyrs. Quelle était leur démarche intellectuelle, en fait?
Thomas Huchon, j'aimerais qu'on s'arrête deux secondes sur les moteurs de recherche. Si je tape « monstre du Loch Ness » sur Google, les arguments irrationnels arrivent en premier, les arguments scientifiques en dernier. Problème, selon le sociologue Gérald Bronner, 65% des internautes regardent seulement la première page des résultats de recherche, 25% ne dépassent pas la deuxième.
Mais je vais vous faire une petite blague. Vous savez quel est le meilleur endroit au monde pour cacher un cadavre? Ben c'est la troisième page de Google, personne n'y va jamais.
C'est vrai. Est-ce que vous y allez, Asma Azania, est-ce que vous allez au-delà de la première page ou de la deuxième page de Google quand vous faites des recherches?
Non.
Franchement.
Jamais.
Le problème des algorithmes, c'est que, enfin, le problème de ces moteurs de recherche, c'est qu'ils ont pris une part importante dans nos démocraties. Il y a un scientifique américain qui s'appelle Robert Epstein qui travaille sur ce qu'on appelle le Search Engine Manipulation Effect, donc l'effet de manipulation des moteurs de recherche. Il a recréé en laboratoire une forme de Google, il a mis une soixantaine de personnes devant. Il a mis des personnes de toutes couleurs politiques. Et c'est lui qui a fait c'est lui qui a choisi comment est-ce que les résultats allaient sortir. Eh bien, dans 33 à 70% des cas, il a réussi à faire basculer à droite ou à l'extrême droite les gens qui étaient dans la pièce. Il n'a jamais réussi à les faire basculer à gauche. C'est un vrai élément. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi l'une des parts du problème. Moi, je ne comprends pas. On parlait de l'État qui s'attaque au complotisme. Moi, je préférais que l'État français dise à monsieur Google, à monsieur Facebook, à monsieur Twitter, vous ne pouvez pas travailler dans mon pays si je ne sais pas comment fonctionne votre algorithme. On leur demande pas la recette du coca. Mais on doit savoir à quel moment, comment ça fonctionne et comment ça marche. C'est plus possible que ces gens-là, manipulent les jeunes, manipulent la politique et à la fin, enfin, je veux dire, on a tous vu ce qui s'est passé l'année dernière aux États-Unis.
Bonjour Estelle, vous appelez de Poitiers. Bienvenue dans l'émission. Vous êtes prof d'histoire, c'est ça?
Oui, tout à fait. Je suis prof d'histoire géo. J'ai longtemps enseigné à Roubaix, d'ailleurs. Et à présent, j'enseigne à Poitiers. Et je pense que dans la perméabilité des élèves à la théorie du complot, il y a une dimension de revanche sociale.
Mmh. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'à Roubaix, on a quand même une population hyper paupérisée, stigmatisée dans les médias, qui est victime de discrimination, et ils font partie dans notre société des perdants. Et par rapport à mes élèves de Poitiers, qui sont plutôt de classe sociale moyenne ou supérieure, je constate qu'il y a une sensibilité très différente aux théories du complot.
François Darrocha.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, cher collègue. Il y a cet aspect social qui est à prendre en compte, en effet, à Roubaix. Il y a une forme d'anti-intellectualisme qui traduit un anti-élitisme d'une société dans laquelle mes élèves ont du mal à trouver leur place, finalement. Donc, évidemment que la théorie du complot joue aussi, a aussi des résonances sociales.
Thomas Huchon.
Alors, moi, je suis pas d'accord du tout. J'ai fait 53 classes en 2016. Je crois pas du tout qu'il y ait une prégnance des théories du complot dans certains milieux ou dans certaines croyances religieuses. Je crois pas du tout ça. Je crois que c'est plus difficile de travailler sur ces questions, mais c'est plus difficile de travailler sur les maths ou l'histoire géo.
Alors, il peut y avoir des théories du complot qui se développent ailleurs qu'à Roubaix, ailleurs que dans des sociétés en désarroi comme celle de Roubaix. Maintenant, c'est une particularité des théories du complot de Roubaix, à Roubaix.
Merci beaucoup Estelle de nous avoir appelé depuis Poitiers. Puis j'aimerais signaler un formidable outil mis à disposition des parents, des élèves, des profs. C'est les clés des médias sur franceinter.fr. C'est une série d'éducation aux médias écrite par notre camarade du journal de 13h, Bruno Duvic. Les clés des médias étaient récompensées aux assises du journalisme de Tours. Un rapide mot, Thomas Huchon, sur l'appel d'Emmanuel Davier qui coordonne Interclasse.
Alors effectivement, Emmanuel Davier qui coordonne Interclasse a lancé un appel à toutes les rédactions de France de créer des secteurs d'éducation aux médias dans leur rédaction. Eh bien, au nom de Spicy, j'annonce que nous sommes totalement d'accord et que nous accueillerons, dans la mesure de nos possibilités, des gens et des jeunes pour leur montrer comment travaillent les journalistes.
Merci beaucoup Christophe Bourseiller, Thomas Huchon, Azania et Asma du Collège Pierre de Jeter. Merci François Darrochat et merci Patricia Martin d'être venue ce matin. Il est temps de retrouver notre chère Aza de la vie numérique, Julia Foyce.
Once upon a time. Il faut garder le contrôle à tout prix.
Il était une fois dans le web.
Julia Foyce.
Mais bonjour Ali, bonjour à tous.
Fausses informations, vraies rumeurs, blagues de plus ou moins bon goût, les réseaux sociaux offrent une caisse de résonance aux bruits les plus divers, des bruits qui courent plus vite que la lumière, Julia.
Oui, c'est l'histoire d'une étourdie, une ado qui s'ennuie, une ado dont la fantaisie la sauva d'un dimanche de pluie l'espace d'une après-midi. Elle s'offrit de belles sensations avant de risquer la prison. Pour des raisons que vous comprendrez, elle a gardé son nom secret, son âge aussi, rien qui permet de la retrouver cette fois-ci. Alors appelons-la Sophie, comme dans Les Malheurs de Sophie, car elle partage les espièglerie de la toute jeune créature de feu, la comtesse de Ségur. Cette Sophie-ci vit à Colleret, village du nord de la France, près de Maubeuge, on y recense 1650 habitants et encore quand c'est l'affluence. Quand sur la D936 passent les camions, les cars scolaires, ça fait office d'animation. Mais ce jour-là, on est dimanche et si j'en crois Wikipédia, à part l'église du village, entre deux rues qui n'ont plus d'âge, il n'y a pas vraiment d'endroit où tuer cet animal de temps quand on est un adolescent. Alors comme font tous ses amis, Sophie allume le Wi-Fi à Internet. Connectée, c'est bon, elle se met à surfer. Les faits divers, c'est son hobby. Elle aime bien se faire peur, Sophie. Alors les meurtres, elle applaudit. Un peu morbide, oui, c'est un fait, mais de son âge, c'est de son âge, que voulez-vous? C'est ça ou le tatouage dans le cou, avec du sang qui coule, ses choux. Bref, Sophie se balade en ligne, les chiens écrasés la fascinent. Mais tout d'un coup, Sophie pile net, cette histoire-là, elle est parfaite. Car cette jeune femme assassinée ressemble à une fille de Colleret. C'est drôle, elle pourrait la connaître. C'est drôle, elle pourrait même peut-être... Et tiens, si on faisait croire que c'est elle qui l'a tué, mais que Finaud, elle maquille son forfait, un incendie pour tout cacher, le cadavre comme les traces de pieds. Sophie l'a vu à la télé, les inspecteurs se font avoir. Oui, mais quand même, cette histoire, il faut qu'elle ait un happy end, un assassin incarcéré. C'est mieux quand même, il faut l'avouer. Sophie s'imagine arrêtée derrière les barreaux écroués. Manque plus qu'un titre, ce sera plié. Elle le trouve vite, grande fan qu'elle est de ses articles, de ses filets. Tenez, Colleret, elle met le feu pour cacher un meurtre. Le texte glissé dans une maquette trouvée au hasard d'Internet, le tout ressemble, copié-collé à un fait divers de cette presse qu'elle aime tant, la jeune bougresse. Sophie est fière de son idée, de son talent, elle ne revient pas. Il n'y a pas de raison qu'elle soit la seule à profiter du résultat. Elle veut que ses copines le voient. Alors sur Facebook, il n'y a plus qu'à glisser le texte, le poster et appuyer sur envoyer. Deux clics, c'est fait, c'est un succès. Comme ses copines ont adoré, bien vite elles l'ont fait partager. En quelques heures, c'est tout Colleret qui apprend que la mort a frappé et que c'est Sophie qui a tué. Parce que ravie de son bon coup, Sophie a balancé le tout, son nom, son prénom, s'est vanté d'avoir tué, d'être arrêtée. Quelle étourdie, hein, cette Sophie. Le maire déboule à la mairie, quelqu'un est mort dans mon village, il veut savoir, il est en âge, et ses adjoints interloqués, bien sûr, ont lu le même papier. Mais non, pas de mort, a priori, rien qu'on leur aurait rapporté. Coup de fil à la gendarmerie pour vérifier ce drôle de bruit, mais touche pas de crime ici, de macabée ou d'incendie. Le maire alors relit le papier à la recherche d'un élément, d'un détail qui aurait dénoué cette histoire de fou, ce roman. Et là, lui saute en pleine face, toutes ces fautes d'orthographe auxquelles personne n'avait fait gaffe. Pourtant, elle signe le canular, la supercherie, c'est un boulevard pour qui se serait concentré avant de propager l'info dans la bulle des réseaux sociaux. Pendant ce temps-là, à la maison, Sophie se fait passer un savon. Tous les amis de ses parents ont appelé affolés, voulant prendre des nouvelles de la petite, une meurtrière, c'est insolite. Le choc passe, les parents s'ébrouent, attrapent leur fille par le cou. Ils l'assomment de s'excuser auprès du maire et de Colleret, leur joli village si tranquille qu'aujourd'hui elle a bien secoué. Sophie ensuite veut supprimer le fameux poste qu'elle a créé, mais c'est trop tard, le mal est fait, l'article mille fois partagé, sa créature lui a échappé, sur Internet, on ne meurt jamais.
Il était une fois dans le web, c'est tous les mercredis, dans Grand Bien vous fasse avec Julia Foyce. Azania, Asma, un mot sur votre première radio sur France Inter, comment ça s'est passé, dites-moi.
Plutôt bien, finalement.
Finalement. Asma.
Finalement, c'était bien de débattre avec vous tous, en fait.
Super, merci beaucoup d'être venus, en tout cas, à la technique ce matin. Éric Morin et Pauline Laverdure. Demain, on s'intéresse aux bienfaits de la solidarité pour soi et les autres à l'occasion de la journée spéciale Solidarité. Demain, sur France Inter. À suivre, la bande originale et Nagui.